quand les dieux rôdaient sur la terre. Ce sont leurs histoires qui vont être colportées ici, celles qui viennent de Grèce, où il y a 3500 ans environ, sont apparus tant de déesses et de dieux, et la foule innombrable de demi-dieux, héroïnes et héros, qu'ils traînent avec eux. Pourquoi les raconter ? Tout simplement parce que ces êtres bizarres, inactuels, peuvent encore nous dire quelque chose. Ils sont en apparence bien morts, partis depuis longtemps. Le culte du dieu Apollon dans son grand temple de Delphes, au centre de la Grèce, où il avait attiré tant de monde, où des prêtresses en délire ont pendant des siècles donné tant d'oracles plus ou moins obscurs, a été définitivement fermé par décret de l'Empire romain en l'an 392 de notre ère, faute de fidèles, faute de réponse du dieu, et surtout à cause de la concurrence d'une autre religion, le christianisme, qui avait su faire place nette.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
On n'y croit plus à ces dieux. Zeus, Athéna, Apollon, Poséidon, Aphrodite et tant d'autres. On ne les prie plus. On ne leur sacrifie plus moutons et bœufs dans de grands spectacles sanglants. Quand arrive un étranger, un inconnu, plus personne ne se demande si c'est un dieu ou un humain. Le soir, dans la transe musicale d'un concert, nous ne rendons pas hommage à Dionysos, grand dieu de l'ivresse et de la fête. Le vol des oiseaux ne nous indique plus la volonté des dieux. C'est fini. Ils ont pour toujours quitté le monde, ils ne rôdent plus parmi nous. Mais au-delà de leur mort, ils ont encore une vie insistante, jamais éteinte. Il suffit de dire Aphrodite, Zeus, Dionysos, Athéna, Artémis, pour qu'aussitôt surgissent des mondes inouïs, attirants, inépuisables. Comment c'est possible ? C'est ce que je voudrais essayer de comprendre, d'explorer.
Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ?
Oh, je ne sais plus.
Cherche à te souvenir. Est-ce que tu te rappelles le nom de ta patrie ?
Je ne me souviens de rien.
Vite, Cléo, Ariane, appelez Calops ! Il faut l'emmener tout de suite chez mon père. Attention, Nausicaa ! Mais peut-être est-ce un dieu ? Ne dit-on pas que les dieux souvent prennent une forme humaine ? J'espère que non. Je voudrais qu'il ne soit qu'un homme.
Les dieux ne vieillissent pas. Leur beauté est éternelle. On les appelle les bienheureux. Exactement ce que nous, les humains, ne sommes pas. Ou très rarement. Mais plus on entre dans leurs histoires, plus on est pris par une espèce de trouble. Oui, les dieux sont différents de nous, plus grands, plus forts, plus rusés, plus intelligents, plus violents. Démesurés, car ils en ont le pouvoir. Ils sont souverains, lumineux, étonnants. Ils nous dépaysent complètement. Les dieux, c'est pas nous. Mais on découvre vite que si ce n'est pas nous les dieux, c'est entièrement pour nous. Leur triomphe, leur gloire ou leurs accablements viennent de nous, pauvres mortels. C'est souvent à cause de nous qu'ils déploient leur puissance. Nous, les êtres voués à la mort, nous avons beau être beaucoup plus faibles qu'eux, hésitants, malingres, aveugles, pas plus consistants que les ombres des rêves ou que les feuilles des arbres qui tombent en automne. Nous les obligeons à agir, à se battre entre eux, à changer. En un mot, nous les faisons vivre. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Et eux, pourquoi dépensent-ils tant d'énergie pour nous ? Une histoire nous dit pourquoi. Celle du dieu voleur de feu, Prométhée. Prométhée a fait l'humanité. Il ne l'a pas créée de ses mains. Il n'y a pas chez les Grecs de dieu créateur comme dans la Bible. Mais il lui a permis d'exister et de durer. Comment ça s'est passé ? Ça n'a pas été facile. Il a fallu d'immenses conflits entre les dieux, toute une série de violences, de ruses des uns contre les autres, mais aussi des rigolades. Les dieux ont de l'humour, surtout au sujet des humains. Le nom de Prométhée, Prometheus, est déjà toute une histoire. Il est celui qui sait, qui comprend avant. Il a la connaissance des choses avant qu'elles n'aient lieu. Il est le prévoyant. En grec, pro, c'est avant, comme dans prognostic. Et Mété, Metheus, c'est la même racine que mathématique, c'est le savoir. Il a un frère qui est son contraire. Les Grecs pensaient par opposition binaire bien nette, Épiméthée, un crétin. Il sait lui aussi, il comprend, Mété. Mais après coup, trop tard. En grec, le mot épi note ce qui vient en plus, ce qui s'ajoute. Il signifie aussi après. Épiméthée, le savant tardif, ne voit rien venir. Les humains lui doivent une grande part de leur malheur, tant il a été idiot, imprévoyant. Mais son frère, Prométhée le prévoyant, a su prévenir ou rattraper le coup, et faire que les bêtises d'Épiméthée n'empêchent pas les humains de vivre tels qu'ils sont. avant tout le monde, Prométhée avait compris que l'humanité, avec toutes les faiblesses dont son frère est en grande partie responsable, était un bien essentiel pour l'ensemble des dieux. D'où viennent-ils, ces deux frères ? Si on prend le mythe le plus ancien, côté naissance, Prométhée était le fils d'un grand dieu, d'un titan, le dieu Japé, Iapétos. Ce Japé, ce titan, était avec ses frères Océan, Cronos et d'autres, fils des immenses divinités primordiales que sont Terre, Gaïa, et ciel, Uranos. C'est ce que raconte le poète Hésiode dans son poème « La naissance des dieux », la Théogonie, poème composé à la fin du 8e siècle avant notre ère ou au début du 7e. Cette histoire des tout débuts du monde, nous la raconterons un autre jour. Les titans étaient connus pour leur force, pour leur ruse, pour leurs outrances. Ils voulaient tout pour eux. Leur chef, Cronos, le père de Zeus, ne voulait pas laisser vivre sa progéniture. Il ne voulait surtout pas perdre sa place de roi de tous les êtres. Il avalait ses enfants pour qu'ils ne naissent pas. Zeus, son dernier fils, s'est révolté et l'a vaincu. Désormais, Zeus règne sur le monde. Il y a mis de l'ordre. Les titans ont été envoyés sous terre, dans un vide immense, invisible et moisi, hors du monde, le Tartare. Certains en sortiront, mais c'est encore une autre histoire. Heureusement, Japé, le titan, a eu le temps, avant d'être banni loin sous la terre, de s'unir à une fille de son frère Océan, Climénée, l'Océanine aux belles chevilles, la Glorieuse. Avec elle, il eut 4 fils. Les 2 frères, Prométhée et Épiméthée, l'intelligent et l'idiot, et 2 costauds, Atlas, et un dénommé Ménoïtios, dont on sait seulement qu'il était très fort et très insolent. D'un coup de sa foudre, Zeus a fait disparaître ce Ménoïtios à jamais. Atlas, lui aussi, est puni. On ne sait pas pourquoi. Il passe sa vie debout, au bord de l'océan qui porte son nom, l'océan Atlantique. Bien ferme, il tient sur ses épaules la vaste voûte du ciel et il souffre continuellement. Sans Atlas, il n'y aurait pas d'espace pour vivre. De même, sans l'intelligence de Prométhée, nous les humains ne serions pas là. Mais Prométhée devra le payer. Comme à Atlas, il souffrira longtemps. Attaché non pas au ciel, mais à une montagne déserte en plein vent, le Caucase. L'histoire de Prométhée, voleur de feu, peut vraiment commencer.
Fils intrépide de la sage Thémis, c'est malgré moi que je t'attache sur ce roc avec des nœuds d'acier que tu ne peux pas vaincre. Voilà ce que l'on gagne à trop aimer les hommes. Dieu qui n'a pas craint les dieux pour honorer les hommes, tu as brisé la loi. Voilà ton châtiment. Rester sur ce rocher sans repos, sans sommeil. Là, tu pourras gémir et pleurer pour toujours. Mais tu ne plieras pas la volonté de Zeus. Il a la cruauté de tous les jeunes rois.
Un jour, les dieux et les hommes se sont réunis pour un banquet commun, en Grèce, pas loin de la mer du golfe de Corinthe, dans un lieu qui s'appelle Mekonai. Ils étaient à la même table, sans distinction, et devaient manger la même nourriture, un grand bœuf, découpé et rôti selon les règles. C'était le temps heureux où hommes et dieux pouvaient se côtoyer, manger ensemble, sans distance. Mais ce jour-là, la séparation des dieux et des hommes va commencer. Elle sera irréversible. Le maître des cérémonies est Prométhée, l'hôte de Marc est Zeus. Les humains qui sont là, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont venus au monde, comment ils vivent. On sait seulement qu'ils sont faits de terre et d'eau. Mais on ne sait pas qui les a fabriqués, quand, pourquoi. Ils sont simplement là. Ils ne deviendront véritablement humains, c'est-à-dire bien distincts des dieux, et distingués en hommes et femmes qu'après ce repas fatal, où Prométhée va s'amuser à essayer de tromper l'esprit de Zeus. Tout ce mythe est une longue bataille de ruses entre Prométhée et Zeus, en plusieurs épisodes. Aucun dieu ne gagne. En réalité, ils sont d'accord dès le début.
Premier épisode, un repas truqué.
Prométhée procède au partage du grand bœuf. Normalement, il faut faire très attention et découper des parts strictement égales, de manière qu'une vraie harmonie puisse régner entre les convives. Un repas, c'est fait pour ça. Se réunir dans la joie d'une abondance correctement distribuée. Et faire ainsi l'expérience partagée d'un monde harmonieux, bien ordonné. Quand il est réussi, le festin est la preuve que la société fonctionne bien. Or, les hommes et les dieux ne vont plus former une même société. Ils vont se séparer à cause de Prométhée. Prométhée triche. Le poète Hésiode nous raconte l'histoire.
Le jour où Dieu et homme mortel devaient se séparer, à Méconée, au cours de ce jour, d'une ardeur empressée, Prométhée offrit un grand bœuf qu'il avait divisé pour tromper l'esprit de Zeus. D'un côté les viandes et les entrailles gonflées de graisse, il les rangea sous la peau, en les dissimulant dans la panse du bœuf. D'un autre côté, les os blancs du bœuf. Avec une technique rusée, il les rangea en belle disposition, les dissimulant dans la graisse luisante.
Prométhée a découpé le bœuf en deux parts inégales. Il a caché ce qui est bon à manger, les viandes, et exhibé ce qui ne nourrit pas, des os couverts d'une magnifique et luisante graisse blanche. Et il demande à Zeus de choisir. La part que le dieu ne prendra pas ira aux humains. Or, évidemment, Zeus, qui sait tout, n'est pas dupe. Il a vu la triche, rigole et se moque de Prométhée.
« Fils de Japé, que tout distingue parmi les seigneurs, mon tendre, avec quel empressement bancal tu as divisé les parts ?»
Ce que fait Prométhée est une vraie provocation. S'il accepte de choisir, Zeus se fera complice d'un partage inégal. Or, c'est contraire à tout ce qu'il est. Zeus ne règne, n'a d'autorité sur ses frères et sœurs divins et sur tous les autres êtres que parce que, contrairement à son père Cronos et aux autres titans, il a su bien partager son pouvoir. Il a découpé le monde, les fonctions des dieux, selon un principe clair, régulier, équilibré d'égalité. Son rôle de souverain consiste à faire respecter ses règles, à faire en sorte que jamais aucun dieu ne prenne plus que sa part. Le monde ne tient, n'est cohérent, que parce qu'un souverain qui dispose de la foudre empêche toute envie titanesque d'avoir plus. Or voilà qu'un freluqué, un fils de titan et titan lui-même, et dans le genre plaisantin, pas un violent, lui propose une chose impossible, accepter la tricherie d'un partage faussé. Prométhée insiste et se moque de lui.
Prométhée aux ruses crochues s'adressa alors à Zeus avec un doux sourire, sans oublier sa technique rusée. « Zeus, le plus glorieux, le plus grand des dieux qui sont nés pour toujours, entre les deux, choisis là où dans ta poitrine tend ton ardeur. » Il parla avec son idée de ruse.
« Sous-entendu, Zeus, si tu es vraiment roi, tu ne peux pas rester indécis et ne pas choisir. » Zeus, qui a évidemment vu le piège, à la fois s'amuse et se met en colère. Sans hésiter, il prend dans ses deux mains les os couverts de graisse blanche, découvre le truc et décide de se venger contre les mortels qui ont obtenu la plus belle part du bœuf.
Zeus, expert en pensée indestructible, comprit et ne se méprit pas sur la ruse. Et avec ardeur, il imaginait des malheurs pour les hommes mortels. Il allait les accomplir.
Le poète Hésiode se fait alors historien de sa religion. Il nous dit que depuis ce temps-là, les humains, lors de leurs sacrifices, offrent aux dieux des os blancs.
Depuis cela, pour les immortels, les tribus des hommes sur la terre font brûler des os blancs sur les autels pleins d'arômes.
Les mortels se réservent les viandes et les entrailles et les consomment. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certaines villes grecques, les dieux reçoivent aussi des parts de viande. Mais l'important n'est pas là. Ce qui compte est le sens de l'offre faite par Prométhée à Zeus. Elle va sceller la séparation définitive entre dieux et mortels. Un mythe n'est pas un reflet exact de ce qui a cours dans la vie réelle. Il construit du sens, de manière qu'il soit frappant, qu'il puisse être saisi en un instant, en une image. En effet, que signifient ces parts inégales? Une vraie question. Les historiens de la religion grecque ont été longtemps perplexes devant ce partage. En effet, l'expression « os blanc » n'apparaît jamais dans les textes relatifs au rituel des sacrifices pour désigner la part des dieux. Mais heureusement, le grand helléniste et interprète des mythes Jean-Pierre Vernant nous indique une voie. Dans l'épopée, chez Homère, l'expression « os blanc » ne désigne jamais les morceaux d'un animal. Il s'agit d'os humains. Et quand ils sont rangés soigneusement dans une urne et posés dans un double manteau de graisse, il s'agit des os lumineux d'un immense héros mort comme Patrocle, des os soigneusement recueillis après la crémation. Les os blancs sont ce qui restera éternellement du corps magnifique de ce héros, impérissable dans l'immortalité que confère le passage d'un corps glorieux par le feu.
Jean-Pierre Vernant.
Sur la question de la mort, je montre qu'il n'y a pas la mort grecque, qu'il y a des morts grecques. Qu'est-ce que c'est que la mort pour toute société? C'est l'impensable, ce qui ne peut ni être dit, ni être pensé, qui ne peut pas être regardé en face. C'est ça. Et ça, c'est un fait brut. Et puis, il y a, à cause de cela, toute une politique de la mort qui vise à la civiliser, à la culturer. Les funérailles, c'est déjà ça. Pourquoi est-ce que les sociétés inventent des rituels funéraires? C'est précisément pour donner à celui qui disparaît un statut. Un statut, quelquefois avec une statue du mort, mais un statut de mort, de donner une espèce de condition sociale au mort qui fait que ce mort, dans le cas d'Achille et d'Ulysse, c'est tout à fait clair, ces morts sont plus présents à la vie des vivants que les vivants.
On peut donc penser que Prométhée offre à Zeus deux images opposées de la condition mortelle. Une image glorieuse, éternelle, qui correspond à ce qu'il y a de plus divin chez les humains, après leur mort, avec l'éclat des os blancs. Et au contraire, avec les viandes et les entrailles, ce qu'il y a de plus éloigné de l'existence des dieux, la viande périssable de bêtes qu'il faut élever par le travail, et dont on s'en nourrit pour ne pas mourir, tant la vie humaine est précaire, nécessiteuse, et se vit au jour le jour. Zeus, le dieu qui en fait n'a pas besoin d'être nourri, prend la part divine. À partir de cette tromperie de Prométhée et de la colère de Zeus, il n'y aura plus jamais de repas commun entre les dieux et les humains. Ils ne seront plus jamais à la même table. Pour entrer en relation avec les dieux qui se sont définitivement éloignés, il faudra passer par la cérémonie du sacrifice, en brûlant des animaux, avec des lots bien distincts, différents. Les dieux deviendront invisibles, loin au-dessus des fumées du sacrifice, dont on ne sait jamais où elles aboutissent. Une distance irrémédiable s'est installée.
Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain, où la vie fait des étincelles, on les voit bien. Même d'où on est dans la vallée, ça brille assez. Et pas de montagne assez haute pour l'empêcher. Ils ont l'air d'être heureux, ces gens, ils rient tout le temps. Leur visage semble n'être fait que pour l'écran. Ils causent de choses qu'on ne verra jamais ici. Ils ont des bouches qui parlent plus vite qu'il n'est permis. Comme s'il n'existait pas vraiment. Dehors, on n'entend pas un bruit. Tous les bruits sont pris par l'écran. Ou dire compte plus que ce. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Puis comme l'écran nous fatiguait, on l'a éteint. On est sorti sous le ciel noir, tout dégagé. Et on a laissé les étoiles tout effacer. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Reçu des nouvelles du monde lointain.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de Lacombe raconte l'histoire de Prométhée, le voleur de feu.
Deuxième épisode, la bataille du feu.
Mais Zeus n'en reste pas là. Comme Prométhée a voulu le tromper, il se venge en punissant les humains. Et comme il s'agit d'un repas de viande cuite dans le feu, il privera les mortels de feu. Zeus cesse pour cela d'envoyer sa foudre sur les arbres. C'est ironique, évidemment. Sans feu, les hommes ne peuvent plus survivre. Ils ne pourront pas non plus offrir de sacrifice à Zeus. Et peut-être, Zeus voulait-il simplement faire disparaître cette race humaine, défendue par un impertinent. Il en a l'habitude. On ne sait pas encore. Zeus est joueur, autant que Prométhée. On verra qu'en fait, ils sont parfaitement solidaires dans leur jeu. Prométhée, le dieu à la pensée agile, à l'intelligence chamarrée, rusée, réagit immédiatement. Il va voler un peu du feu du ciel, juste une petite flamme. Il la prend soit dans le feu des astres, ou, plus vraisemblablement, dans l'atelier d'Héphaïstos, le dieu forgeron sur l'Olympe. Il cache cette flamme dans la tige d'une plante ombellifère. En grec, le narthex, c'est-à-dire la férule. On n'arrête pas de cacher dans cette histoire. Il introduit le feu dans la tige de cette plante. Cette tige contient une moelle qui se consume lentement. Il n'y a pas si longtemps, les bergers de Corse conservaient ainsi le feu. Prométhée apporte aux mortels ce feu qu'il a d'abord rendu invisible. Tout de suite, les mortels l'utilisent partout sur la terre. Leur brasier se voit de loin. Zeus les remarque et entre à nouveau en colère. Avoir le feu près de soi est une révolution énorme pour les humains, une grande libération. Ils ne dépendent plus de la foudre de Zeus qui tombe sur les arbres quand le dieu le veut. Disposer du feu, c'est disposer de la capacité de transformer toute chose. C'est ne plus devoir subir le monde tel qu'il se présente et s'impose. Avec le feu, rien n'est plus fixe, rien n'est plus donné une fois pour toutes. Si le feu transforme, s'il est à la base de toutes les techniques et donc de la civilisation, c'est que le feu est par nature insaisissable.
Gaston Bachelard.
Le feu est une telle figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement.
Contrairement aux autres éléments naturels, l'eau, la terre et l'air, il ne peut être arrêté, contraint, situé. Il n'a pas de lieu. Il est toujours en train de s'échapper et de détruire, de réduire en cendres noires ce qui le fait briller. Homère parle bien du feu qui rend invisible, alors qu'il est l'être le plus lumineux qui se voit de loin. Il n'est que mouvement, transformation, contraste. Certes, le feu peut être fixé une fois pour toutes dans les astres, dans la voûte lumineuse du ciel, là où Prométhée a pu aller le chercher. Il est alors divin, inatteignable, stable. Mais une fois ramené sur terre, entre les mains des hommes, le feu est dans la tension permanente de la flamme vers un ailleurs, quand elle fuse hors du bois, de l'huile ou du charbon, une force gigantesque de changement. En donnant le feu aux habitants de la terre, Prométhée n'est pas seulement, comme le lui dit, éperdu de reconnaissance, un personnage des comédies d'Aristophane, le seul dieu qui a apporté aux hommes l'art et la manière de faire des grillades. Il offre plus, la possibilité d'être plus libre, rusé, avisé vis-à-vis de ceux qui nous entourent, de le faire bouger. On comprend qu'il y a un lien puissant entre Prométhée et le feu. Les deux sont instables, vifs, changeants, rétifs à tout ordre établi. Ils s'échappent tout en donnant les moyens de vivre. Revenons à l'histoire de Prométhée et de Zeus. Elle n'est pas finie.
Troisième épisode, l'invention de la femme.
Constatant le vol du feu par Prométhée, Zeus décide une autre vengeance. Cette fois, il ne reprend pas le feu aux mortels, il le leur laisse. Mais il va faire payer le bien que les hommes ont reçu avec le feu de Prométhée par un autre don qui sera un malheur. Don divin contre don divin. Ce don mauvais et cette punition, ce sera la femme. Bah oui, c'est ce que dit le mythe. Les Grecs anciens s'y connaissaient en misogynie et en machisme. Ça crève les yeux tout le temps. Mais comme ils sont toujours un peu tordus et rusés et pas simplices, leur machisme indéniable essaye de se donner une allure intelligente. Voyons, c'est la fameuse histoire de Pandore, la première femme.
Cela commença une nuit au début du printemps. La nuit n'incitait pas au travail. La lune était pleine et haute au-dessus de la mer. L'heure était sensuelle et troublante. J'entendais la voix des chanteurs gitans monter de la taverne des deux tortues. Je savais que j'y trouverais Pandora. en compagnie de Reggie Desmarais, qui semblait vouloir se suicider tant il buvait, pour l'amour de Pandora, prétendait-on. Et Stephen Cameron, qui n'avait que deux raisons de vivre, Pandora, et la voiture de course avec laquelle il espérait battre le record du monde de vitesse. J'étais autant qu'eux l'esclave de Pandora.
Cette première femme, l'origine de toutes les femmes humaines, n'est pas réellement une femme vivante. C'est un mannequin qui pense, qui parle, qui se meut, un automate très perfectionné. Sur ordre de Zeus, les deux divinités les plus artistes de l'Olympe, Héphaïstos, le Vulcain romain, et Athéna, Minerve, à Rome, fabriquent une grande poupée, une créature fascinante de beauté. Écoutons Hésiode à nouveau.
Quand Zeus vit chez les hommes l'éclat du feu qui se voit de loin, aussitôt, en échange du feu, il fabriqua un mâle pour les hommes. Car avec de la terre, Héphaïstos, le très renommé boiteux, façonna un être qui avait l'apparence d'une vierge digne, selon la volonté de Zeus. La déesse Athéna, au regard lumineux, lui mit une ceinture et l'orna d'un vêtement d'argent. De sa tête, ses mains firent descendre un voile au dessin compliqué, merveille pour les yeux, et elle cercla sa tête de guirlandes de jeunes pousses, fleurs des prairies qui donnent du désir. Pallas, Athéna. Et sur sa tête, elle plaça encore une couronne d'or qu'Héphaïstos, le très renommé boiteux, avait lui-même faite par le travail de ses mains pour charmer Zeus, son père. Sur elle, il façonna une multitude aux dessins compliqués, merveille pour les yeux, tous les monstres terrifiants que nourrissent la terre et la mer. Il en disposa une multitude. Un charme soufflait sur tous. Des merveilles, pareilles aux animaux qui ont une voix.
Parfois, on dit aussi qu'Hésiode lui a donné une voix, qu'Aphrodite, Vénus, répandit sur elle la grâce et le désir amoureux, celui dont on dit qu'il brise les membres. On dit aussi que le dieu Hermès, le fourbe, mit dans cet être un esprit de chien et un caractère voleur. Tous les dieux lui ont donné quelque chose. C'est pour cela qu'on l'appelle Pandora, à savoir le don, en grec doron, de tous les dieux, en grec panthès. Le mythe que raconte le poète Hésiode est sévère avec cette Pandore. Il la décrit gentiment, si on peut dire, comme un haut piège sans remède pour les hommes, ou comme un fléau pour les hommes qui se nourrissent de farine. Bref, un fléau pour les travailleurs, pour les besogneux productifs que sont les mâles. Ce n'est pas très engageant. Le poète ira même plus loin dans ses reproches. Dépensière, parasite, la femme serait dans les fermes des hommes, comme les frelons, qui attendent à l'intérieur des granges que les abeilles travailleuses aient accumulé la blanche cire pour s'en emparer. Mais Pandore n'est pas que cela. Grâce à elle et grâce aux femmes qui sont venues après elle, on peut vivre, si on se marie. Les enfants que les femmes font naître prendront soin des vieux mâles, incapables de travailler. Et après la mort, ces enfants ne laisseront pas les hommes sans héritier. Au moins ça, la vie grâce à Pandore continue après la jeunesse et la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle histoire ? On doit bien avouer qu'il y a peu de mythes, peu de poètes ou de penseurs grecs anciens qui ne soient pas indécrottablement misogynes. Un seul poète peut être Euripide, plus avisé que tant d'autres, mais c'est une exception. Mais ne lâchons pas tout de suite cette histoire. Les habitudes de pensée de l'époque sont le plus souvent affreuses pour ce qui est de la question du genre. Mais c'est encore très souvent le cas dans nos sociétés d'aujourd'hui. Dans ce mythe, il se trouve peut-être quand même une réflexion profonde sur ce qu'est l'humanité. En effet, il faut dire aussi que cette femme artificielle, destinée à vivre exclusivement chez les humains et non chez les dieux, où il y a déjà les déesses, cette femme qui est à l'origine de la race des femmes, porte véritablement en elle les traits divins des déesses de l'Olympe. Ces traits, ces caractères se retrouvent tels quels chez Pandore, sans être transformés. Comme les grandes déesses, Pandore est divinement fascinante, puissante et redoutable. Elle est artificielle, elle est une poupée faite avec de la glaise, mais elle est réellement divine par les cadeaux qu'elle a reçus de la part de tous les dieux. Elle est aussi divine que le feu apporté par Prométhée. On voit bien comment cette beauté offerte par les dieux, beauté qui va permettre aux humains de se reproduire, répond au feu divin que Prométhée est allé chercher dans le ciel. Ce n'est pas aller trop loin, je crois, de dire qu'il y a un rapport imagé de complémentarité entre l'aspect sexuel phallique de la plante recelant le feu céleste qu'apporte un dieu masculin et la beauté érotique époustouflante de Pandore. La survie par le feu et la sexualité sont désormais possibles, avec tous les dangers qui en découlent. Elles ont été apportées aux humains du dehors. La vie humaine est donc entièrement produite par les dieux, par deux dons divins, l'un complétant, compensant l'autre. La vie humaine est d'origine divine, même dans les aspects qui la distinguent le plus de la vie des bienheureux de l'Olympe. Au départ, avant de recevoir ces dons, les mortels ne sont rien, incapables de vivre. Le poète tragique Eschyle, qui au 5e siècle avant notre ère a composé pour le théâtre une tragédie appelée « Prométhée enchaîné », est très négatif, plus qu'Hésiode, sur ce qu'étaient les hommes avant l'intervention du dieu. Pour lui, ces hommes d'avant le feu de Prométhée étaient des riens, de petits néants ambulants, tapis dans l'ombre.
Au début, ils voyaient, mais leur vue était vide. Percevant des sons, ils n'entendaient pas. Pareils aux silhouettes des rêves, tant que durait leur vie, ils brassaient tout au hasard et ne connaissaient ni la texture de briques des maisons tournées vers la lumière, ni le travail du bois. Fouisseurs, ils habitaient comme les fourmis, simples atomes de souffle, au fond de grottes sans soleil.
Par leurs ruses, par leurs artifices grandioses, les dieux assurent aux humains le minimum vital, l'existence. Et d'ailleurs, nous dit encore Hésiode, c'est un dieu qui va succomber au charme de Pandore et l'introduire chez les mortels. C'est cet idiot d'Épiméthée qui ne comprit que trop tard son erreur, mais il faut en fait le remercier. C'est grâce à lui que les humains ont pu se perpétuer. Zeus fit entrer l'être fabuleux qu'était Pandore en ce lieu où dieux et mortels étaient encore rassemblés. L'émerveillement saisit tout le monde, dieux et hommes. Mais seul Épiméthée se laissa prendre. Les autres dieux virent que cette merveille, qui leur ressemblait tant, avait été construite uniquement pour piéger les mortels. Épiméthée se laissa séduire, alors que son frère lui avait dit de refuser tout ce qui venait de Zeus. Il épousa Pandore. Et c'est ainsi que la race humaine est issue de l'union d'un dieu imbécile et d'un automate. Est-ce qu'on peut encore parler de nature humaine ?
Extrait du film Simone et de la série Real Humans.
Vous m'avez créé. Je n'ai fait que donner vie au rêve d'un autre. Monsieur Tarensky, vous et moi, nous savons que je n'étais rien sans vous. Un code informatique, une suite de 1 et de 0. Je n'étais rien.
Oh, c'est un vrai ?
Oui, c'est un vrai hubot, chérie. Authentique.
Authentique ?
Oui, authentique. Et ça se démarre comment ? Ah, c'est là.
Comment tu t'appelles ?
Je n'ai pas encore de prénom.
Non, c'est à nous de le programmer.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Sometimes I feel like a motherless child. Ooh, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Long way from home, hey. Sometimes I feel like a motherless child, yeah. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Pierre Judet de la Combe raconte comment l'humanité a appris à survivre et à vivre grâce au dieu Prométhée.
Tout n'est pas encore dit sur Pandore, qui est à la fois un mal et un bien. Dans le mythe que reprend Hésiode, une image va fixer et immortaliser cette nature double. C'est la fameuse boîte de Pandore. Image difficile, une sorte de rébus. D'énigme, comme les aiment les mythes. Elle a mis chaos de nombreux interprètes, moi le premier. En fait, il ne s'agit pas d'une boîte, mais d'une jarre. Bien enfouie au fond d'un cellier, là où l'on range et cache d'habitude les richesses accumulées par le travail. Grains, huile, olives, miel. Or, il se trouve que cette jarre, qui devrait normalement contenir de bonnes ressources, des provisions, est remplie de malheurs, de désastres, de maladies, de chagrins. Ces malheurs étaient bien serrés, bien enfermés dans la jarre, et ne se répandaient pas parmi les mortels. Mais un jour, Pandore entre dans le cellier, voit la jarre, et curieuse, impatiente de savoir ce qu'il y a dedans et d'y toucher, toujours l'idée qu'on se faisait des femmes, Pandore ouvre le couvercle de la jarre. Les calamités s'échappent à l'instant. Et par milliers, les chagrins et les maladies prolifèrent dans le monde.
Désormais, la terre est pleine de maux et pleine en est la mer. Les maladies visitent les hommes le jour, d'autres la nuit. Elles s'animent d'elles-mêmes pour apporter le mal aux mortels, en silence. Car Zeus, l'avisé, leur avait enlevé la voix. Il n'y a aucun moyen d'échapper à l'esprit de Zeus.
Mais de manière inattendue, Pandore, d'un coup, referme le couvercle de la jarre. Quelque chose, un être, n'a pas pu en sortir. Il restera à jamais. L'espoir.
Seul l'espoir restait là, à l'intérieur, dans sa maison infrangible, sous les lèvres de la jarre, et ne s'envola pas au dehors, car elle avait auparavant posé le couvercle de la jarre.
Qu'est-ce que ça veut dire ? L'espoir, qui avait été enfermé dans la jarre avec les calamités, avec les maladies, est-il un malheur lui aussi ? Mais dans ce cas, il aurait dû être relâché avec les autres. Ou au contraire, est-il un bonheur possible ? Le mythe ne le dit pas et nous laisse nous faire notre idée. Sur l'espoir, les Grecs ont dit deux choses contraires. Ou bien ils le condamnent et disent que l'espoir, qui est souvent vain, vide, mène à leur perte les hommes qui ont trop tendance à s'engager à l'aveuglette dans une action. Ou au contraire, ils disent que l'espoir permet d'avancer, d'inventer et de ne pas rester collé au réel de tous les jours, de ne pas être fasciné par notre condition présente et d'échapper à l'obsession de la mort. Sans doute que l'espoir est ces deux choses à la fois. Que nous dit Pandore ? Une toute petite observation peut nous aider. Quand Pandore ouvre le couvercle de la jarre, les malheurs se répandent partout. On peut supposer que le geste inverse, remettre le couvercle, a au contraire une valeur bénéfique et bloque le malheur. Peut-être que si l'espoir était sorti et pullulé au dehors, les gens agiraient n'importe comment et se perdraient. Mais s'il reste dans la jarre, il y a encore, il y aura toujours de l'espoir dans cette jarre. Les malheurs en sont partis et on peut espérer que du bon restera dans le cellier de la ferme tout le temps que l'espoir sera là. Certains interprètes ont pensé que l'espoir était l'enfant à naître dans le creux de la jarre. Celle-ci figurant le ventre de Pandore. Pandore est de fait parfois représentée sur des peintures anciennes comme une jarre. Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. L'important, sans doute, est que malgré les malheurs, il reste toujours chez les humains le temps à venir, celui de l'espoir, le temps des possibles. Et Prométhée dans tout ça. Zeus n'allait pas le laisser impuni après le vol du feu. Épiméthée a eu son compte avec Pandore, mais son frère, Prométhée. Zeus est sans pitié. Il attache Prométhée par un lien puissant, incassable, ou bien à une colonne, ou bien à une montagne, le Caucase. Cela dépend des versions du mythe. On dit parfois qu'Héphaïstos a forgé, serré ses chaînes, et qu'il a même enfoncé un grand clou dans la poitrine de Prométhée pour qu'il ne bouge pas. Prométhée, le prévoyant imprévisible, l'insaisissable, le dieu qui bouge, qui trahit les dieux et se met du côté des humains, est ainsi fixé, immobilisé. Comme Prométhée aime tant les humains qui vivent petitement au jour le jour, Zeus lui envoie en plus une torture qui va lui rappeler ce qu'est la condition de mortel.
Sur Prométhée, Zeus jeta un aigle aux longues plumes. Il lui mangeait son foie immortel, qui en tous sens croissait d'une part égale, la nuit, à ce que tout le jour mangeait l'oiseau aux plumes allongées.
Ce supplice ne va pas tuer Prométhée, puisqu'il est immortel, mais le dieu condamné, éprouvera dans sa chair de Dieu ce que c'est que vivre au jour le jour. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et cette fin va nous dire pourquoi Zeus a en réalité laissé faire Prométhée, pourquoi il a laissé découper le bœuf de Méconée de manière inégale, pourquoi il a laissé aux mortels le feu que Prométhée a volé, en se contentant d'y ajouter Pandore, le prototype de toutes les femmes humaines. Les deux dieux ont en fait travaillé pour le même but. En effet, la souffrance de Prométhée n'a pas été éternelle, contrairement à celle d'Atlas. Un jour, longtemps après sa capture, Prométhée a été délivré de ses liens. Son libérateur est inattendu, puisqu'il s'agit d'Héraclès, qui est le fils de son persécuteur, le fils de Zeus et d'une mortelle Alcmène. Avec son arc infaillible, Héraclès tuera l'aigle qui dévore le foie de Prométhée. Cet aigle grandiose, aux longues plumes, voyant la flèche garnie de plumes qui le tue, pourra se dire qu'il sait lui-même apporter la mort. Prométhée sera délivré de ses douleurs. Le mythe ajoute que cette délivrance s'est faite selon la volonté de Zeus, qui avait relâché sa colère contre Prométhée et qui voulait que son fils Héraclès ait par cet acte une gloire encore plus grande sur la terre. La querelle des deux dieux est finie. Grâce au feu de Prométhée, les humains ont pu survivre. Grâce à Pandore, l'humanité peut durer, tant bien que mal. Et des générations après l'arrivée de Pandore, a pu naître un homme, Héraclès, fils d'un dieu et d'une femme humaine. Par ses exploits, par sa gloire, Héraclès fait honneur à son père Zeus. Et surtout, il réalise dans ses exploits, ses excès, sa folie, ses rages, ses conquêtes improbables, ses victoires. Tout ce que Zeus, dieu de l'ordre, ne peut plus se permettre. Zeus l'Olympien, qui a vaincu la force sans limite des titans, qui a imposé un ordre strict pour que le monde ne se disperse pas, qui a imposé la loi d'un partage rigide et éternel, qui a tout fait pour éviter qu'un fils divin plus puissant que lui ne vienne le détrôner, comme il a autrefois détrôné son père Cronos, était au sommet de sa réussite. Mais il était aussi prisonnier de l'ordre qu'il avait instauré. Aucun excès ne lui était permis, sinon il allait déclencher de nouvelles guerres entre les dieux. Le monde était ordonné, bien tenu, mais immobile, arrêté. Il fallait y remettre du mouvement, de l'imprévu, du nouveau, mais sans mettre cet ordre en péril. C'est là qu'interviennent les humains. Ils peuvent déployer leurs forces, leurs guerres, leurs appétits comme les titans, mais ils n'ont pas les moyens de mettre en danger l'empire des dieux. Ils sont trop faibles. Ils pourront inspirer aux dieux et aux déesses amour, haine, pitié. Ils pourront donner aux dieux et aux déesses la possibilité des émotions les plus extrêmes, sans que l'ordre des choses ne soit bouleversé. La transgression du titan qu'est Prométhée, les beautés, les ruses et les tromperies de Pandore redonnent vie au monde de Zeus. Avec le feu de Prométhée, avec l'espoir bien gardé par Pandore, le temps est à jamais ouvert, l'histoire n'est jamais close.
Sabuye moyala, sabuye ngarayala, kosavuye moya la masamunjalo ja savuye moya la Savuye moya la mali denu ja savuye moya la jomakolon
savuye moya la mali denu savuye moya la jomakolon
amana to kono yaro sangare umana to kono yaro
jomakolon
osi kanu nyininga Asavuye moya la mali denu ja savuye moya la jomalalo
Asavuye moya la mali denu savuye moya la jomalalo
jomalalo
Edgar Morin.
Nous ne pouvons pas balayer d'un seul coup Prométhée. Il faut penser que à l'origine Prométhée apporte le feu. Et c'est quand même une chose, une conquête humaine extrêmement importante. Donc il y a un aspect de Prométhée qu'il faut accepter et refuser, dans le fond, le prométhéisme. Qu'est-ce que c'est que le prométhéisme aujourd'hui ? C'était la conviction qui s'était emparée d'abord du monde occidental et puis qui s'était répandue sur la planète, que l'homme est fait pour conquérir le monde et le maîtriser. Déjà Descartes disait que la science devrait nous faire comme maîtres et possesseurs de la nature. Et ce dogme s'est effondré, dans le fond, il y a 30 ans, il y a 20 ans, avec la découverte du fait que, en traitant le monde biologique, naturel, comme un monde d'objets, nous le dégradons et nous dégradons notre propre vie.
Pour terminer, juste une petite échappée sur ce qu'on dit de Prométhée aujourd'hui. Après tout ce qu'il a fait, est-ce qu'on le remercie ou est-ce qu'on le maudit ? Les deux. La liberté radicale du feu et de Prométhée a fait qu'à l'époque moderne, depuis le romantique, on a voulu voir dans ce dieu un modèle de l'homme libre, insoumis, révolutionnaire et progressiste. Un homme qui, par la technique, par la science qu'il porte avec lui, se lève, sait et saura nous libérer des ordres politiques et religieux autoritaires. Prométhée serait l'esprit libre, inventif de l'humanité. On joue Prométhée contre Zeus. Mais souvent, et maintenant surtout, on joue l'inverse, Zeus contre Prométhée. Parce qu'on trouve que ce Prométhée est allé trop loin avec sa technique, avec sa science. Parce qu'on trouve qu'il a lancé le mouvement d'une destruction sévère et implacable de la nature. Il est un dieu désastreux. Dire d'une réalisation technique qu'elle est prométhéenne veut dire une critique, la condamnation d'un excès, d'un orgueil humain. On est bien content, en fait, que Zeus ait puni Prométhée et lui ait rappelé qu'il y a un ordre naturel des choses à respecter. Mais avec ces deux manières modernes de voir Prométhée, on oublie tout simplement que Prométhée n'est pas un homme, mais un dieu. Il travaille pour l'humanité, oui, mais aussi pour que les dieux puissent vivre dans un monde vivable où les humains ont leur place. Cela demande de la ruse, de la technique, de l'invention. Dieu lié au feu, Prométhée s'échappera toujours. Il est un passe-partout, toujours ailleurs. Il se faufile entre les pouvoirs établis. Si la technique à qui il a permis de se développer dans le monde devient, comme on s'en plaint souvent, un ordre tyrannique, impitoyable, sûr de soi, Prométhée à coup sûr saura s'échapper. Il défiera cet ordre imposé comme il a défié l'ordre impitoyable de Zeus. Mais il le fera avec ses moyens, qui sont ceux du feu, c'est-à-dire en étant plus libre encore, plus prévoyant, plus savant et plus intelligent, insaisissable.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser, les textes ont été lus par Léa d'Auvergne et Laurent Stocker. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. La semaine prochaine, nous évoquerons le dieu du vin et de l'ivresse. Je veux parler de Dionysos, un dieu insaisissable et bizarre. Bonne journée sur France Inter.